Midi 36, 12h36, le Bloc québécois demande au gouvernement Trudeau de bonifier son aide aux entreprises en matière de subventions salariales afin d'assurer davantage leur viabilité. Parce que même s'ils n'opèrent pas, même s'il n'y a plus d'employés, ou en fait plusieurs employés ont été mis à pied, ben, l'entreprise doit faire face à ce qu'on appelle des frais fixes. Location d'immeubles, chauffage, climatisation et tout ce que vous voulez. Avec nous, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Monsieur Blanchet, bonjour.
Bien, bonjour, monsieur Wood.
Alors, vous demandez donc que le ministère des Finances prévoie un ajout à la subvention salariale d'un pourcentage là, qui pourrait être lié au maintien des emplois.
En effet, c'est que cette semaine, en principe, on va être appelé au Parlement pour voter une loi qui va mettre en vigueur, qui va mettre en œuvre la volonté du gouvernement de créer la subvention salariale. Et nous, on est pour ça depuis le début, parce que ça présente plusieurs avantages. Ça fait en sorte que l'employé reste officiellement à l'emploi de l'entreprise, et l'entreprise voit 75 % du salaire de ce travailleur subventionné par l'État, de telle sorte que le travailleur garde un meilleur pouvoir d'achat que s'il était sur l'assurance-emploi. L'entreprise garde le lien d'emploi, et lorsque l'économie va redémarrer, tôt ou tard, il faudra que ça reparte, cette affaire-là, bien, le lien d'emploi étant maintenu, c'est beaucoup plus facile et plus rapide. Maintenant, pour les entreprises, il reste un trou important.
Oui, il reste
un trou important. Oui. Il reste un trou important, c'est que les entreprises doivent quand même, pendant la période de suspension des activités, payer le loyer, payer l'électricité. Il y a un minimum de frais fixes, dans certains cas des hypothèques sur les immeubles, il y a un minimum de frais fixes à maintenir quand même. Et on peut pas dire à une entreprise, ben va emprunter pour combler ça, parce que c'est comme dire à quelqu'un qui perd sa job, prend pas l'assurance-emploi, va faire un emprunt à la caisse, ça va juste augmenter le problème.
Oui. Grosso modo, là, le gouvernement, ce qu'il propose, d'abord, l'enveloppe, 71 milliards, la subvention qui couvrirait 75 % des salaires, mais il faut que ça touche les entreprises qui ont perdu au moins 30 % de leurs revenus en raison de la pandémie.
Ça, c'est un des problèmes, par contre. Le montant que ça va coûter ne peut être qu'une évaluation. On ne peut pas être précis, ça, je le comprends, mais je ne leur reproche pas. Maintenant, c'est un peu, ça peut tuer des startups, cette politique-là. Mm-hmm. Une entreprise qui a commencé à opérer il y a environ un an avait un tout petit chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires peut devenir beaucoup plus important à la fin de 2019 ou au début de 2020. Mais avec ce mode de calcul-là, toute entreprise qui est en démarrage va être gravement pénalisée. Il faut trouver une manière pour que les entreprises les plus innovantes, souvent des startups, ne soient pas pénalisées par le mode de calcul. Je suis convaincu que le gouvernement va être parlable là-dessus quand on aura les négociations avant d'aller voter un projet de loi, parce qu'on veut l'avoir réglé avant de se déplacer à Ottawa cette fois-ci. Je pense que le gouvernement va être ouvert sur ça. Puis il y a une couple d'autres éléments qui restent un peu en suspens. Les travailleurs autonomes, ça s'est couvert, mais les gens qui se paient par dividende, c'est tout à fait légal. Eux ne sont pas couverts par ce programme-là ni par le programme d'urgence.
Oui, d'ailleurs, je vous invite à consulter le Journal de Montréal qui a réalisé un dossier important, les pages 4 et 5 aujourd'hui, de ces gens que vous décrivez, M. Blanchet, qui malheureusement, et je veux pas utiliser une figure de style vulgaire, mais qui tombent en deux chaises et qui, par exemple, ils avaient une petite entreprise qui se versait des dividendes et qui n'ont pas accès au plan d'urgence là auquel des millions de Canadiens vont s'inscrire demain.
En effet, mais ça, encore une fois, je pense qu'il faut y aller avec modération. Le gouvernement a inventé très rapidement un programme. Ce programme-là ne peut pas être d'emblée parfait. C'est notre travail, nous, les partis d'opposition, de faire en sorte que le gouvernement envisage les cas spécifiques qui ne sont pas couverts. C'est notre job. On le fait avec une ouverture d'esprit. On fait des propositions, on fait des suggestions. Et les cas spécifiques, lorsqu'il y en a quand même un certain nombre, on est capable de demander des changements à la loi avant même qu'elle soit adoptée, de la même manière que le gouvernement peut ajuster le programme canadien d'urgence lorsqu'il y aura des cas spécifiques, mais en nombre suffisant, qui vont faire en sorte que, attention, on échappe du monde. Il ne faut pas échapper du monde. Il faut donner aux gens un sentiment de sécurité pour traverser la crise.
En même temps, M. Blanchet, il y a beaucoup de gens, des économistes notamment, à qui nous avons parlé, qui sont extrêmement inquiets, qui ont dit... C'est une première série de mesures, en tenant compte qu'il y aura une amélioration et un retour après l'épidémie. Malheureusement, la pandémie, le virus lui-même, le docteur Fauci l'a dit aux États-Unis, c'est lui qui fixe l'agenda. Êtes-vous inquiet que, arriver à un moment où la crise s'étirerait, et je parle au conditionnel, ben les ressources du gouvernement viendraient à manquer.
En fait, je suis inquiet que les délais qu'on imaginait ou qu'on espère être ceux dans lesquels on sera venu à bout de la patente, que ça se règle dans ce temps-là. J'ai des gros doutes, on n'y arrivera pas. On vient d'apprendre que le gouvernement va évidemment prolonger la pause au Québec au-delà du 13 avril. Maintenant, ça ne permet pas au gouvernement de ne pas poser les gestes qu'il pose, et je ne crois pas que les gouvernements de l'ensemble des pays industrialisés, qui peuvent aussi aider les autres, s'ils s'entendent entre eux sur un certain nombre de mesures, et tout le monde travaille à peu près dans le même sens présentement, seront capables de prolonger cet état-là. Maintenant, il faut en venir à bout. On sait que dans le pire des scénarios, ultimement, c'est la mise en place d'un vaccin, mais ça, c'est dans très longtemps.
C'est
on
très
espère être arrivé à quelque chose avant.
Oui, bien sûr, c'est très long. Ben, l'espoir, et nous avons parlé au Dr Martin Junot de l'ICM aujourd'hui, nous avons parlé à des chercheurs qui nous disent, l'espoir, M. Blanchet, c'est une médication qui va nous permettre de mieux gérer une seconde éclosion, si elle nous arrive à l'automne. Autrement dit, pas avec la dramatique que nous vivons en ce moment. Est-ce que vous, en tant que chef du Bloc, vous avez ces genres de discussions en disant voici comment ça risque de repartir et avec un certain agenda qui tient compte des réalités, notamment d'un pays et de ses réserves?
Mais en fait, il y a deux enjeux très spécifiques. Il y a tout l'enjeu humain. On n'a pas le droit de ne pas être extrêmement ouvert et sensible à l'enjeu humain. La détresse des travailleurs, la détresse des familles, la détresse, la peur, l'inquiétude profonde des aînés. L'enjeu humain doit passer d'abord et avant tout parce que l'État est au service des gens. Mais après ça, il faut penser à qu'est-ce qu'on va faire pour relancer l'économie, pour que la structure se maintienne, pour qu'on ait une certaine pérennité, pour qu'on ne tombe pas dans des excès de fermer toutes les frontières aux échanges économiques, comme ce fut le cas dans le passé, avec des effets assez dramatiques dans certains cas. Il faut penser à long terme. Moi, je ne suis pas, je n'ai pas de connaissances en virologie, évidemment. Je lis beaucoup de textes de magazines scientifiques. On sait qu'il y a beaucoup d'hypothèses, des plus optimistes, des plus pessimistes. Laissons les scientifiques faire leur travail de bonne foi comme ils le font. Et l'autre élément qui me semble important, c'est que pour le bien de tout le monde, la démocratie et des gens inquiets, je sais qu'il y a une ouverture, que quelque chose peut se préparer, c'est que les parlements puissent recommencer à travailler pour qu'on ait des discussions modérées, posées, non partisanes, constructives, et amener des hypothèses de solutions parmi lesquelles les gouvernements pourront faire des choix dans le meilleur intérêt des gens, parce que les gens seront informés de ce que sont les propositions de tout le monde.
En terminant, M. Blanchet, est-ce que vous ne craignez pas que, malheureusement, ça se prolonge? Quand je dis ça se prolonge, il y a tellement de faillites. On regarde le domaine de la restauration. Le domaine des bars, la restauration, le divertissement, tout ce qui est rattaché au tourisme aussi. Vous le savez très bien, il y a des entreprises qui n'auront même pas l'occasion de repartir. Elles vont tout simplement mourir. Je donnais comme exemple au ministre Garneau tout à l'heure, Air Canada, qui fonctionne à 10% de ses capacités, 16 000 mises à pied la semaine dernière, sans subvention. Il y a bien des secteurs qui ne pourront pas repartir.
Oui, mais en fait, la crainte, elle est celle-ci. Air Canada et l'ensemble des compagnies aériennes à travers la planète, les grandes, vont obtenir d'une manière ou d'une autre l'aide de leur gouvernement respectif parce que, comme on dit en anglais, too big to fail, c'est trop gros pour que le gouvernement les laisse tomber. Le problème, c'est les petites entreprises ou les moyennes entreprises de Drummondville ou de Joliette ou de Shawinigan qui ne passeront pas au travers, qui vont devenir des proies faciles pour de plus grandes entreprises et ça risque de créer une concentration de l'activité économique entre les mains de moins de gens et qui souvent ne seront pas des gens du territoire, qui ne seront pas des Québécois ou qui ne seront pas des Canadiens. Ça, moi, j'ai énormément cette crainte-là.
Oui, mais vous avez cette crainte-là, M. Blanchet, mais remarquez que la crise devient l'opportunité d'acheter chez nous, d'acheter plus local. D'ailleurs, le premier ministre Legault l'a dit, ce sera notre priorité quand on aura autre chose à faire que de lutter contre la pandémie. Il va falloir sérieusement y penser, c'est-à-dire avoir un modèle québécois pour faire face à des urgences semblables ou d'autres crises, mais également favoriser l'éclosion d'entreprises québécoises qui vont nous fournir et nous garder un peu plus autonomes.
Je pense qu'il y a des secteurs, l'alimentation, la santé, l'environnement, il y a des éléments clés qui ne peuvent pas être aisément cédés à un contrôle étranger. Tout ce qui est essentiel ne peut pas être cédé et on a des faiblesses. Et dans cette perspective-là, il faut augmenter la consommation de produits québécois. Par contre, je me permets de nous rappeler que 50% de ce qui est fabriqué au Québec est exporté. Alors, si tout le monde fait comme nous, ça peut aussi faire mal. Il ne faut pas reculer sur certains principes d'échanges commerciaux avec d'autres nations parce que notre propre économie est profondément vulnérable si les autres pays commencent à mettre des barrières. Mais il faut en effet avoir une politique d'achat local et de fabrication locale et de recherche et d'innovation localement pour au moins les secteurs fondamentaux pour des situations comme celle-ci.
Merci beaucoup, M. Blanchet.
Un grand plaisir.
Au revoir. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. J'ai refilé à bien de mes amis et membres de ma famille hier l'article de Katia Gagnon, que je vous encourage à aller lire dans la presse. Thérèse, je vous l'ai envoyé hier.
Extrêmement intéressant.
Et intéressant pour une raison. Elle nous a expliqué le cas de l'éclosion de COVID-19 à Racine. On appelle ça aussi Val-Racine, c'est tout près du Mont Mégantic. C'est un endroit que je connais bien à cause de l'observatoire, pas loin. Et des gars ont joué un match de hockey dans la rue, sans se douter qu'il allait y avoir une contamination et une distribution, propagation de la COVID-19. On en parle au retour.